Culture en Savoie à Aiguebelle sur 88.5 MHz, il est 10h40.
Le chemin de la connaissance.
Ghislaine Mathieu.
Le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique. Aujourd'hui, avec Jamal Belcher, professeur à la Sorbonne, à la découverte du récit.
Que tous les hommes des quatre parties de notre monde, d'Orient et d'Occident, du Nord et du Midi, qui verront ce livre précieux et l'écouteront lire, sache ceci. Moi, Mohammed, fils de Abd Allah, né en Arabie, dans la ville de Mecque, de la noble tribu arabe des Quraysh, illuminé de la grâce divine, était dans ma maison, couché non loin de Hani. J'avais longtemps veillé à méditer sur la loi de notre Seigneur, puis je succombais sous le poids du sommeil. Alors m'apparut l'ange Gabriel.
C'est ainsi que débute le récit d'un voyage merveilleux qui va mener Mahomet, comme on dit traditionnellement en français, de la ville de la Mecque où il réside jusqu'à Jérusalem, puis de Jérusalem jusqu'aux cieux, jusqu'au trône divin. Ce récit, qui a reçu le titre lorsqu'il a été transcrit, lorsqu'il a été écrit, de « Livre de l'Ascension », est le thème majeur du merveilleux islamique. On en connaît des versions dans toutes les langues de l'islam. Et ces manuscrits étaient souvent accompagnés d'une iconographie à la fois riche et très vivace. Dans toutes les variantes, dans toutes les versions, on retrouve des éléments immuables. Il y a bien sûr l'ange Gabriel. Il y a aussi une monture ailée, Al-Bourak, une échelle prodigieuse, les enfers, le paradis, etc., etc. Je vous propose de découvrir le récit avec Jamal Belcher.
Eh bien, le prophète va enfourcher un animal magique qui se nomme Bourak, et il va être conduit par l'ange Gabriel, et il va commencer par se rendre de la Mecque à Jérusalem. Et là, grâce à une échelle qui donne son nom au récit,
le récit portant le titre généralement de le livre de l'ascension ou le livre de l'échelle.
Le livre de l'ascension ou le livre de l'échelle. Et alors il gravit successivement.
Alors, il abandonne sa monture à Jérusalem.
Il laisse sa monture à Jérusalem et il va devant ce qui deviendra un jour la mosquée de la coupole. Il va faire l'ascension des cieux, les uns après les autres, en rencontrant à chaque fois des personnages, des prophètes.
Il est accompagné par l'ange Gabriel.
Oui, il est conduit par l'ange Gabriel, qui est à la fois présent et à distance. Parce que parfois, dans le récit que fait Mohammed de son ascension, Gabriel n'est pas immédiatement là. Mais enfin, il va le conduire jusqu'au trône. Jusqu'au trône céleste. Et il va franchir en fait toute la durée prophétique parce qu'il va rencontrer successivement tous les prophètes et qui s'étagent selon les cieux, et notamment Christ et Moïse. Moïse, ce sera le dernier qu'il rencontre. Et à partir de là, il va s'aventurer dans l'espace sacré ultime. Puisque seul, alors, il est abandonné de tous. Personne ne peut le conduire. Il se rend jusqu'au trône. Et il est donc reçu par Dieu. Mais l'éclat de Dieu est tel qu'il ne peut pas fixer son regard sur l'être suprême et qu'il s'incline. Et tout le dialogue qui se fait et tous les commandements qu'il reçoit se font entre Dieu non vu et Mohammed incliné. Et donc il reçoit les commandements de la loi musulmane. Il revient, il amorce sa descente, il retrouve Moïse, et là il y a un dialogue qui va se répéter à plusieurs reprises, parce qu'à chaque fois, Moïse le prévient de ce que les commandements de Dieu sont trop sévères, et que lui, dont l'expérience est considérable avec le peuple d'Israël, sait bien que ces commandements-là ne sont pas respectés. Alors il y a plusieurs allers et retours, et à chaque fois Dieu, dans sa bonté, accepte de réduire le nombre des prières, le nombre des jours de jeûne, enfin toutes les
obligations. D'adoucir les règles.
Il adoucit les règles. Et puis finalement, il revient avec les derniers commandements qui sont ceux de la loi musulmane, c'est-à-dire 30 jours de jeûne, 5 prières par jour. Et malgré les objurgations du Moïse qui lui demande de revenir à Dieu, Mohammed refuse en disant « ça n'est pas possible, je n'oserai jamais comparaître de nouveau ». Et il redescend et il va revenir à la Mecque.
En passant d'abord par Jérusalem.
Bien entendu, il refait le chemin.
Il retrouve sa monture.
En sens inverse, il retrouve sa monture à Jérusalem et il revient à la Mecque, où il va revenir exactement de là d'où il est parti, c'est-à-dire chez lui.
Dans son lit.
Oui, puisque on raconte que tout ce voyage s'est effectué
nuitamment.
Nuitamment, et le temps qu'un bol d'eau qui était à côté de lui et qu'il a renversé en partant finisse de se renverser. Et au matin, il va aller à la mosquée de la Mecque, à la Kaaba, et raconter son voyage au Korichite.
C'est-à-dire
la tribu, sa tribu d'ailleurs, il fait partie d'un clan des Quraysh, et il va leur raconter ce qui lui est arrivé.
Oui, alors dans ce récit que vous nous avez résumé, il y a plusieurs éléments qui vont devenir indispensables à ce récit. Il y a d'abord, par ordre d'entrée en scène, si je puis dire, il y a d'abord l'ange Gabriel.
Oui.
Il y a ensuite la monture céleste,
oui,
le bourak.
La monture céleste qui est une monture ailée.
Un animal anthropomorphe.
Oui.
Il y a l'échelle.
Oui, dont chaque barreau, dont chaque échelon est fait d'une gemme.
Gabriel me prit la main, me mena hors du temple et me montra une échelle qui descendait du premier ciel jusqu'à la terre où je me trouvais. C'était la plus belle chose que j'eusse jamais vue. Elle était posée sur le perron devant lequel j'étais descendu d'Al-Bourak. C'est sur elle que les âmes humaines font leur ascension. Elle vient du paradis du Firdaous, d'où elle a été descendue au premier ciel, puis sur terre devant le temple de Jérusalem. À sa droite se trouvent 400 000 anges, et autant à sa gauche. Ils ont des ailes vertes. Sur chaque degré se tient un ange couronné de lumière, entouré de 500 anges au visage brillant comme la lune. Il y a, entre deux marches et les deux suivantes, une distance de 40 années de marche. Ces degrés sont au nombre de 55. Le premier de rubis, le second de topaze, le troisième d'émeraude, le quatrième de perles, le cinquième d'argent, le sixième d'or et chacun des autres de pierres précieuses différentes incrustées de perles et d'or fin, plus richement qu'on pourrait l'imaginer.
Mais il y a aussi, à travers tout ce périple, d'abord le périple terrestre et ensuite l'ascension céleste, il y a une description des divers états, des divers lieux que le prophète traverse. Il y a des épreuves auxquelles est soumis le prophète.
Oui, il va essentiellement avoir le privilège rare de visiter le paradis et les enfers, qui, en toute théologie, ne peuvent être imaginés qu'après le jugement dernier. Mais enfin, il est prophète et le Seigneur va lui faire visiter le paradis avec toutes ses beautés, ses collines verdoyantes, ses pâturages et ses créatures de rêve que sont ces femmes éternellement vierges et dont la chair est si transparente et si lumineuse qu'on voit couler sous leur peau le sang qui circule dans les veines. Mais il va aussi visiter les enfers effroyables. Et il va décrire tous les supplices qu'endurent les créatures dans ces enfers.
Le prophète Mohammed, au cours de ce long périple, est soumis à des tentations, dirions-nous.
Oui, surtout dans le voyage horizontal, surtout entre la Mecque et Jérusalem. Il entend des voix pendant son voyage horizontal. Il entend des voix, les voix de femmes qui essaient d'interrompre le voyage. C'est la tentation qui le suit. Il entend une première voix, il refuse de répondre, et il refuse même de regarder du côté d'où venait la voix. il avance encore un peu et il voit alors réellement la dame la plus belle que j'eusse jamais vue, dit-il, avec les cheveux déployés, les bras tendus, revêtus de très beaux atours, avec des joyaux, des perles, des pierres précieuses. Et elle est immensément belle, immensément gracieuse, et elle lui parle doucement en lui disant d'arrêter sa monture, El Burak. Mais il ne l'écoute pas, il continue sa route. Et puis une autre encore qui est émise par un jeune homme aux beaux vêtements merveilleusement parfumés, dit-il. Et tout le long du voyage, il va rencontrer comme cela des voix qui essaient de le détourner de son chemin et qui semblent être une tentative désespérée pour qu'il ne commence pas son ascension, pour qu'il ne perce pas les mystères. C'est aussi, on peut les interpréter comme une espèce d'offensive diabolique pour le détourner de sa route, puisqu'il va surprendre les secrets ultimes, et que, en tant que prophète, une erreur qu'il aurait commise, comme celle de répondre à la voix des très belles femmes successives qui se posent sur son chemin, ou de la voix de ce jeune homme, l'aurait disqualifié immédiatement en tant que prophète. Mais non, il est à la fois conduit par un animal féerique et puis par l'ange Gabriel qui le protège, et il va arriver à bon port à Jérusalem et ensuite commencer son ascension.
Il y a une autre épreuve qui est présentée au prophète Mohammed, c'est celle des coupes, où il a à choisir entre le lait,
oui,
le vin,
oui,
et l'eau.
Lorsqu'ils arrivent à Jérusalem et au temple de Jérusalem, Gabriel revient avec sur un plateau trois coupes, l'une de lait, la seconde de vin et la troisième d'eau. Et Gabriel lui demande de choisir. Alors il commence par choisir la tasse de lait et en boit un peu. Et Gabriel lui répond, si tu avais pris le vin, ton peuple se serait égaré. Si tu avais choisi l'eau, ton peuple aurait sombré. Mais si tu avais bu la coupe de lait entièrement, personne de ton peuple ne serait allé en enfer. Alors c'est admirable parce que, bien entendu, le vin emporte la raison, vous égare, l'eau devient le symbole de la mer où on sombre, et le lait lui-même pose un problème, parce que si le prophète avait épuisé cette coupe de lait, il aurait sauvé tout son peuple et pour tous les siècles qu'elle allait suivre. Et là, il en boit juste un peu, et donc il va sauver un certain nombre des croyants, mais la menace persiste, et il y a là un des grands ressorts dramatiques de ce récit qui fait que les gens qui le lisent ou qui l'écoutent gardent sur eux cette angoisse de leur avenir. Lorsque on écoute ou on écoutait le voyage nocturne, c'est véritablement chaque croyant qui refait les pas de Mohammed, qui remet les pas dans les siens, qui monte Burak, qui suit Gabriel, qui rencontre tous les prophètes, et chaque moment est un moment d'émotion. Le croyant revit lui-même, et je vous assure que lorsqu'on approche du trône de Dieu, l'auditoire est saisi d'une émotion, d'une sorte de transe, et qu'on se met, je l'ai vu de mes propres yeux, n'est-ce pas, à trembler parce que on approche de Dieu. Et pas simplement parce que c'est Mohammed qui en approche, mais parce que soi-même, on imagine un moment, un bref instant, qu'enfin, dans sa vie, Dieu va vous parler, et qu'il va vous rassurer complètement sur son existence, et peut-être un peu sur la grâce qu'il voudra bien avoir à votre égard. Et c'est beau, ça. Même si ça n'est pas tout à fait vrai.
C'était Les Chemins de la Connaissance, cette semaine Voyage nocturne du prophète Mahomet et Merveilleux islamique par Ghislaine Mathieu. Aujourd'hui, la découverte du récit avec Jamal Bencher, auteur du Voyage de Mahomet, édité par l'Imprimerie Nationale. Texte lu par Pierre Monteil, réalisation Michel Bossuet. Demain, un miroir de l'au-delà. De Corse à Servione, à Listro, sur 89.6 MHz, il est 10h40.
Les chemins de la connaissance.
l'apostle Matthieu, le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique. Aujourd'hui, avec Jamal Bencher, professeur à la Sorbonne, le voyage nocturne, miroir de l'au-delà. Le récit de ce voyage merveilleux, tel que nous le connaissons maintenant, s'organise en trois parties. D'abord, un voyage horizontal sur Al-Bourak, qui mène le prophète de l'islam de la Mecque à Jérusalem, puis l'ascension proprement dite, de Jérusalem jusqu'aux cieux, jusqu'au trône du Créateur. Enfin, troisième et dernière partie, le retour jusqu'à la ville de la Mecque. Ce récit est constitué d'une multitude de versions qui se sont déposées au cours des siècles dans le patrimoine littéraire, iconographique et traditionnel, jusqu'à devenir inséparable de la prophétie mohammedienne. Pour comprendre un peu mieux ce récit, une question s'impose. Quelle en est la structure ? Jamal Bencher.
La structure du récit est apparemment simple, puisque le prophète commence par affirmer son territoire terrestre, c'est-à-dire qu'il relie la Mecque à Jérusalem, ce qui a un sens, et qu'ensuite il va non seulement faire la connaissance des prophètes qui l'ont précédé, c'est-à-dire qu'il est reçu par ses pères, qu'il pénètre dans le monde de l'au-delà et qu'il rencontre les anges et les génies, c'est-à-dire qu'il est admis sur le territoire de l'invisible, de l'inconnaissable, mais qu'il va parvenir jusqu'à Dieu et qu'il va y recevoir sa loi. En somme, on réécrit la prophétie. Il y a eu trois interprétations. Il y a eu les tenants du voyage réel, en disant que Mohammed avait réellement fait le voyage. D'autres qui ont développé la thèse d'un voyage fait en rêve, mais un rêve prémonitoire, donc vrai. Et le troisième, que c'était un voyage non pas en rêve, c'est-à-dire dans le sommeil, ou un voyage réel, mais un voyage spirituel. Et que tout devait s'interpréter spirituellement. Et qu'il ne fallait pas donner au symbole qui jalonne l'ascension d'autres caractères que ceux d'une interprétation symbolique. Je prends Bourak, qui est interprété dans ce sens comme la force divine élevant le prophète vers lui, les pierres précieuses qui constituent les barreaux, les échelons de l'échelle, c'est là aussi la force divine qui le fait monter, etc. Et cette interprétation intériorisée va donner naissance à toute une série des grands voyages mystiques du prophète. C'est une très belle veine. Tandis que la version première, c'est-à-dire Mohammed réveillé et vivant, se rendant sur cette monture accompagné par Gabriel jusqu'au ciel, a fourni, je crois, l'aliment à un peu à la fois du pauvre. Je veux dire que lorsque les musulmans, le 27e jour de Ramadan, écoutent un conteur public leur faire le récit du voyage nocturne...
Ou un sermonnaire aussi. Ou un sermonnaire, non?
Ou un sermonnaire, mais tout dépend de quel sermonnaire. Mais ce sont surtout des conteurs, ce qu'on appelle les qas en arabe, ceux qui racontent, font ce récit-là. Il faut bien savoir que toute l'assistance assiste moins à l'ascension de Mahomet qu'elle ne la pratique elle-même. L'assistance rencontre les prophètes, visite les paradis, vérifie l'existence de Dieu, regarde les horribles séjours infernaux, et c'est chaque croyant qui fait ce voyage, cette ascension. Mohammed entraîne derrière lui tous les musulmans du monde qui écoutent cette parole. Et c'est ce qui a fait, vous me parliez de sermonnaire, fait que plusieurs théologiens ont prévenu contre les dangers de ce genre d'interprétation littéraliste. Vous savez que la première version est attribué au cousin du prophète, l'imam Ibn Abbas, et les textes commencent par dire « l'imam Ibn Abbas dit ». Et c'est une entreprise en fait de légitimation de ce texte, puisque il est cousin du prophète, donc il est censé l'avoir entendu du prophète lui-même le raconter, n'est-ce pas ? C'est la source première. Et cette légitimité-là va régir, si vous voulez, toutes les écritures de l'Ascension par la suite. Parce que on tient une référence à la fois prophétique et humaine. Le prophète a fait le voyage, l'a raconté, il se trouvait que l'imam Ibn Abbas a recueilli ce texte. Il n'empêche qu'on voit très bien comment s'est constitué le récit, par adjonction successive. On a d'abord la première soudure importante, et celle qui a joint le voyage de la Mecque à Jérusalem,
voyage
de Jérusalem
à l'Ascension proprement dit.
Et peu à peu, les choses vont se charger au point de défier même la théologie, puisque je vous le disais, les enfers et les paradis n'existeront pour les hommes que
après
le jugement dernier. Pas jusque-là, il n'y a ni enfer ni paradis. Parce que au fur et à mesure que le récit se déploie, au fur et à mesure des moments historiques que traverse l'islam, on découvre des péchés nouveaux, on affine dans la punition, et on peuple les enfers de toutes sortes de personnages. Et il s'agit d'une confidence singulière et qui va donner naissance à une œuvre collective. Car il ne faut pas oublier que c'est le témoignage du prophète. Et tout le problème et l'habileté des conteurs, des sermonnaires, qui s'emparent de ce texte, à des desseins honorables à première vue, c'est de transformer ce message prophétique, cette expérience unique que fait le prophète et point d'autre que lui, en une expérience vécue collectivement par tous. Et la visite du paradis et des enfers se charge à tel point que dans certaines versions il y a un déséquilibre qui se fait au détriment de la rencontre des autres prophètes et même de la rencontre avec Dieu, pour mieux décrire les délices du paradis, affiner la description, déployer toutes sortes de détails qui renforcent la beauté de ces lieux, ou au contraire de détails qui accroissent l'horreur de penser un moment qu'on pourrait être précipité dans les enfers. Et c'est cette humanité là que prend en charge le voyage nocturne, qui est blâmé par les théologiens parce que au lieu de s'en tenir à la trajectoire magnifique d'un prophète allant s'incliner devant son Dieu, on va charger le voyage de détails humains. En somme, la misère du monde ou le bonheur espéré du monde devient l'objet principal du récit, alors que en toute logique, tout le récit devait magnifier cette admission par Dieu de Mohammed devant lui. Et cela va aller si loin que il y a des adaptations modernes, et je l'ai signalé, il y a une adaptation moderne où on montre Mohammed en cosmonaute. Après tout, pourquoi pas ? Pas ? Il y a une version moderne qui dit qu'il n'y a aucune raison technique, scientifique, qui s'oppose à imaginer un voyage dans les cieux, puisque cela se fait. Et là, il y a cette espèce de simplisme fait mis d'ignorance, mis d'impudence, que l'on relève dans certaines interprétations de l'islam contemporain, d'un islam qui se voudrait à la hauteur des acquis scientifiques. Hein? sans voir que la profondeur du voyage nocturne, pour ceux qui y croient, réside dans ce trajet spirituel que le prophète fait vers son Dieu, et qui, dans les versions soufies, est admirable, puisque les versions mystiques s'allègent de tous ces détails et, au contraire, se fixent sur cette rencontre ineffable, ce fait inouï d'un homme vivant qui a le privilège insigne d'approcher Dieu.
Je vis une lumière aveuglante qui brillait. Je demandai à Dieu de m'inspirer de la fermeté pour supporter sa vision. Les voiles du trône furent alors écartées. Un ordre retentit. Ange, donne courage à mon prophète. Je me tenais debout, saisi d'une immense frayeur. Les voix s'étaient tues. Tout s'était immobilisé, et je sus que j'étais devant mon Dieu, à distance de deux bois d'arc de son trône, ou moins encore.
Dans les versions de qualité du Mi'raj, on souligne beaucoup ce geste admirable qu'il a. Lorsque il s'approche du Seigneur, il incline sa tête parce qu'il est aveuglé par son éclat et parce qu'il est dans un état de frayeur étonnant, parce que Mohammed, dans le voyage nocturne, garde sa qualité d'homme. Il est absolument effrayé, saisi de stupeur, il hésite, il n'ose pas avancer, il a peur. Au fur et à mesure qu'il approche du trône, il est dans un état indescriptible. Il baisse la tête et là, on va éviter le blasphème. C'est-à-dire de faire retentir une voix de Dieu que l'on décrirait avec les mots des hommes pour lui faire tenir un discours qui serait un discours quasiment humain. Et vous savez ce que Dieu prononce à ce moment-là, ce sont des versets de la deuxième sourate du Coran, la sourate de la vache, le Baqara. Et là, cela montre l'extraordinaire habileté de ces écritures qui relèvent du merveilleux, pour certains du populaire. Il y a cette finesse de perception des choses qui fait que on n'entend pas la voix de Dieu, que c'est le prophète qui l'entend, et que c'est une lumière intérieure qui jaillit, et que le seul langage qui retentit, c'est celui du verbe révélé, à savoir celui du Coran. En fait, c'est une grande célébration théâtralisée de la prophétie mohammedienne.
Nous arrivâmes ensuite à un arbre dont je n'avais jamais vu le semblable. Il a un tronc si gros qu'un homme, monté sur le cheval le meilleur, le plus rapide, et qui ne cesserait de galoper, ne pourrait en faire le tour en 100 ans. Il cheminerait autant de temps avant d'en franchir l'ombrage. La terre où il est planté est faite de musc et d'ambre. Elle est plus blanche que la plus blanche des neiges et sent si bon que nul ne pourrait dire. Mais comme le parfum du musc et de l'ambre est trop fort, il y est mêlé du camphre pour le tempérer. Le tronc de cet arbre est de rubis et ses branches d'émeraude. Ses feuilles, faites de velours, ont la forme d'oreilles d'éléphant. Elles sont si larges qu'une seule pourrait ombrager notre pays.
Chemin de la connaissance. Le voyage nocturne du prophète Mahomet et le merveilleux islamique par Ghislaine Mathieu. Aujourd'hui, un miroir de l'au-delà avec Jamal Bencher. Texte lu par Marc-Henri Boisse. Mixage Pierre Monteil. Réalisation Michel Bossuet. Demain, iconographie. Régine Barjou, vous écoutez France Culture dans l'Orne à Domfront sur 88.3 MHz. Il est 10h39.
Le chemin de la connaissance. Ghislaine Mathieu. Le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique. Aujourd'hui, avec Sharia Adl, directeur de recherche au CNRS, iconographie. La somptueuse iconographie suscitée par le livre de l'Ascension, c'est-à-dire le récit de ce voyage nocturne, céleste et merveilleux, accompli par Mahomet, c'est-à-dire Mohammed, le prophète de l'islam, renvoie à d'autres débats la question de l'interdiction islamique de l'art figuratif. Il faut le rappeler quand même, le Coran ne se prononce pas sur ce point. Se prononce contre de nombreux hadiths, ses commentaires, ses dits attribués au prophète de l'islam au cours des temps, et qui doivent être replacés dans leur contexte historique et culturel. Toutefois, l'iconographie de ce voyage nocturne, et plus largement la peinture dans le monde de l'islam, nous montre deux aires géographiques bien distinctes. D'abord, un monde sémitique auquel il faut adjoindre l'Occident musulman, un monde plutôt arabophone et majoritairement sunnite. Et une deuxième ère, irano-touranienne, un monde turc-iranien-indien qui n'est pas nécessairement majoritairement chiite. La frontière en est à peu près l'Euphrate. En deçà de l'Euphrate, pratiquement pas d'image pour illustrer le livre de l'Ascension. Au-delà de l'Euphrate, une profusion d'images somptueuses, une tradition picturale vivace, toujours actuelle. Évidemment, la peinture, la miniature, en islam, a une fonction très précise. Elle sert à illustrer le manuscrit, ce qui nous amène à dater les versions écrites de ce voyage nocturne à partir des illustrations retrouvées. Shahriyar Adle.
Personnellement, je ne connais pas de représentation de ces thèmes dans son ensemble avant l'invasion mongole, avant les années 1220. Ce n'est qu'une fois que les Mongols se sont complètement ont assimilé la culture de l'Asie centrale, de l'Iran, etc., etc., et qu'ils deviennent des champions d'iranisme, qu'on voit apparaître le premier manuscrit. Ce premier manuscrit, malheureusement, il n'existe plus. Il s'agissait donc d'un Mi'raj nommé, donc de l'ascension du prophète, et on sait qu'il a existé parce que le grand critique d'art, Douce Mohamed de Herat, a saisi l'importance de ces peintures qui représentaient donc ce voyage merveilleux du prophète. Et comme le livre en question n'était pas en bon état, il a découpé les peintures et il les a remontées dans cet album.
Alors ça, c'est donc le plus ancien. Il est de facture iranienne, dirons-nous, mais on va en trouver d'autres.
Tout à fait, tout à fait. Alors, de ce livre, il n'existe plus que 8 peintures dans cet album. Il faut attendre un siècle, donc les années 1440, pour voir le second et le dernier chef-d'œuvre disponible. Et ce dernier chef-d'œuvre, Dieu soit loué et conservé, se trouve à la Bibliothèque nationale
à Paris,
et il a été acheté au XVIIe siècle déjà, et se trouve en France depuis le XVIIe siècle. Il a été acheté à Istanbul. Puis, si je ne me trompe pas, il est passé dans la bibliothèque de Colbert, et puis la suite dans la bibliothèque du roi. Il est en langue turque orientale, en ouïghour, qui n'est pas tout à fait le turc de la Turquie actuelle. Il est écrit en écriture ouïghour. C'est pour ça que quand il est arrivé en France, on ne pouvait pas savoir, ce livre, en quelle langue ça parlait. Et pourtant, il a été fait à Herat, c'est-à-dire le capital culturel et historique du Khorasan, qui est divisé en deux, si vous voulez maintenant, la moitié en Afghanistan, la moitié en Iran aujourd'hui. Et donc, ça a été copié à Herat.
Ça a été peint, vous voulez dire.
Enfin, le livre a été copié. Et les peintures peintes, donc à Herat en 1446, si je me souviens bien.
Dans ces somptueuses miniatures qui nous sont parvenues, on voit les principaux thèmes du récit, puisque
tout à fait, oui,
ces peintures
tout
servent à illustrer le récit
tout
que
à
nous
fait,
connaissons.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, les principaux éléments constitutifs du récit que l'on retrouve dans ces peintures, c'est d'une part la monture ailée, burak.
Justement, de nouveau, je vous arrête. De nouveau, je vous arrête. Parce que, voyez-vous, c'est qu'il y a eu depuis, les historiens diront mieux que, surtout ceux qui s'occupent de l'histoire des religions mieux que moi, c'est qu'il y a eu confusion. Il y a à la fois deux voyages. Je veux vraiment pas me mélanger et m'intervenir,
m'immiscer
dans les affaires qui ne sont pas de mon domaine. Il y a un voyage entre la Mecque et la mosquée éloignée, la mosquée lointaine, que à partir de la fin du 7e siècle, le début du 8e siècle, on a identifié à la mosquée de Jérusalem, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas évident.
Ce n'est pas historique.
Ce n'est pas historique. Et il y a une deuxième... Donc, le voyage entre ces deux lieux qu'on peut matérialiser...
Voyage horizontal.
Le voyage, voilà, fort bien dit. Et puis, le voyage qu'on pourrait qualifier de vertical, ascensionnel, et dans lequel le prophète va voir in visu les sept cieux et finira par...
arriver au trône de Dieu.
Voilà, voilà. Alors, le voyage, si vous voulez, entre les deux lieux matériels se fait sur la monture Borak. Borak, et alors que le voyage vers le ciel est fait de pair avec un ange, mettons l'archange Gabriel.
Alors, Borak, que nous avons abandonné à Jérusalem.
On ne l'a pas abandonné, on le tient. Écoutez. Dans le premier manuscrit auquel je me suis référé, c'est-à-dire le manuscrit, mettons, de 1335, de
Top 4,
le plus anciennement connu, de l'album de Bahram Mirza, ce n'est pas Borak qu'on voit, absolument pas, puisque le prophète est accompagné, et plus exactement, il se trouve sur les épaules de l'archange Gabriel, et c'est ainsi qu'il monte au ciel.
Il s'agit du voyage de l'ascension.
Exactement. Borak, il est totalement absent. Il n'est pas là.
Parce que le voyage horizontal n'a pas été repris. Le voyage horizontal, au moins, nous ne l'avons pas trouvé.
Il n'est pas là. Enfin, encore une fois, nous n'avons que 8 peintures de cette... n'est-ce pas? Entendons-nous bien. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, les peintures montrent toujours le prophète sur les épaules ou à côté de Gabriel, dans leur voyage d'ici-bas jusqu'au ciel. Alors que dans le second manuscrit, donc le manuscrit de la Bibliothèque nationale du milieu du XVe siècle, alors là, on voit Borak. C'est-à-dire cette monture qui...
anthropomorphe.
Tout à fait, qui est une espèce d'ânesse, une espèce de onagre, une espèce de mulet, et qu'on sait que c'est une créature féminine.
Après m'être incliné devant Gabriel, comme je vous l'ai conté, je regardai sur ma droite et vis qu'il tenait les rênes d'une monture qu'il avait amenée et qui ne ressemblait à nul autre. Son nom était Al-Borak. Plus grande qu'un âne et plus petite qu'un mulet, elle avait le visage d'un homme, le corps et les membres d'un cheval. Sa crinière était faite de perles fines montées sur des baguettes de jacinthe aux mille reflets, son toupet d'émeraude et sa queue de rubis. Ses yeux brillaient comme des astres à l'éclat du soleil. Sa robe grise bigarrée était de pure clarté. Elle avait des balzanes aux deux pieds et à la main de la lance. Son poitrail était de rubis, son dos de perles blanches éblouissant comme l'éclair fulgurant à l'horizon du ciel. Elle avait deux ailes, et chaque aile comptait 70 plumes, et chaque plume mesurait 70 coudées. Deux lignes avaient été écrites entre ses yeux avec la plume de la Providence. La première mentionnait « Il n'y a de Dieu que Dieu ». La seconde « Mohammed est l'envoyé de Dieu ». Et donc, je m'en allai sur cette bête vers le temple de Jérusalem. Le Saint-Ange Gabriel cheminait à ma droite et m'annonçait de force.
Alors, il y a donc Borak, mais il y a un autre élément qui est largement repris en peinture, c'est l'échelle.
L'échelle, exactement.
L'échelle, alors ça, ce sont les moyens du transport du prophète, mais il y a aussi d'autres éléments, car le prophète, au cours de son voyage, traverse le paradis, les enfers, et tout ceci a donné lieu à une grande profusion de peinture. Sais que votre préféré, c'est l'arbre.
Ah, c'est l'arbre, effectivement. Dans le récit, le prophète arrive donc pratiquement, il est à la fin de son voyage, et il voit un arbre, n'est-ce pas? Alors pour bien montrer qu'il s'agit d'un arbre absolument extraordinaire, le nom arabe. Enfin, il y a un problème d'identification. Il y a Toubi et il y a Sadrat al-Muntaha. Il y a les deux arbres. Mais de toute façon, il s'agit d'un arbre extraordinaire. Et alors, donc, le tronc est absolument immense. Et surtout, on ne voit pratiquement jamais où ça termine l'arbre. L'arbre monte jusqu'en haut de la peinture et puis il dépasse. Donc,
on ne voit jamais la cime.
On ne voit pas le cime, ce qui est normal, je vous montre l'immensité.
Le tronc est généralement couvert des plus belles pierreries.
Tout à fait, les feuilles également, etc.
Je m'avançais et vis un coq qui était proche de notre Seigneur. Il était si grand qu'il tenait sa tête et sa crête au ciel, où se trouvent Dieu et son trône, tandis que ses pattes reposaient au plus profond de la septième terre, dont je vous parlerai plus tard. Il avait une très longue aigrette qui descendait très bas et des ailes multicolores aux nuances les plus belles qu'on ait jamais vues. Et que vous dirais-je de sa forme? Dieu le fit comme il lui plut de le faire. Ce coq a des ailes si grandes qu'en les ouvrant, il couvre tous les cieux et les terres d'Orient en Occident. Ses grandes plumes de dessus, ornées de topazes, de perles et de rubis, sont si blanches que nul ne pourrait en décrire la blancheur. Le duvet de dessous est d'un vert éclatant. Ce coq est un des anges de Dieu.
Ah, c'est le coq. Ah, le coq. Alors, c'est un coq blanc, immense, extraordinaire, et qui, à quoi sert un coq? À montrer le temps, enfin, à annoncer le temps. Et alors, on voit le prophète et l'archange face à ce coq merveilleux. Mais il est vraiment merveilleux, blanc, avec crête rouge et les yeux brillants, et qui donc annonce l'heure. Également, ce qui est très très intéressant à voir, c'est comment, même dans le milieu irano-turco-indien, comment on pouvait résoudre le problème de la représentation divine.
Et celui de l'ange aussi. L'ange a un visage. Le prophète est souvent montré sans visage. C'est-à-dire qu'il y a une tache plutôt claire à la place du visage.
Tout
la silhouette,
fait,
oui. Les mains montrent un souci de réalisme.
Tout à
mais
fait.
Le visage, la tête est là, bien sûr, mais le visage est oblitéré par une tache blanche ou claire.
On l'appelle une espèce de voile blanchâtre. C'est presque toujours le cas. Parfois, on voit son visage, mais vous avez raison, presque toujours, la face est voilée.
Mais parfois, on voit son visage.
Parfois.
Quelle est l'origine de ces manuscrits qui montrent le visage?
Ah, c'est toujours dans le contexte iranien ou indien. La chose est impensable dans le milieu, mettons, arabe ou islam occidental. Alors, Dieu, comment le présenter? Alors déjà, on est en train de pécher, entre guillemets, mais alors comment on va résoudre ce problème? Alors le problème est résolu, c'est-à-dire Dieu, on voit le prophète prosterné ou le prophète devant une espèce de nuage atmosphère, nuage chinois, qi, qui est doré, et qui tourbillonne et qui remplit toute la surface.
Les différents épisodes du livre de l'Ascension, qui sont développés dans ces manuscrits rares et précieux, constituent un témoignage du passé. Mais l'iconographie du voyage nocturne ne s'arrête pas avec la production des manuscrits. Les thèmes principaux, tels que l'échelle, l'arbre, aussi la rencontre de Mohammed avec les autres prophètes, et surtout Al-Bourak, la monture ailée, continuent à alimenter l'imagination populaire. Al-Bourak reste un thème très actuel. Elle est de plus en plus anthropomorphe, très féminisée. Et on retrouve Al-Bourak sur le calendrier ou sur les affiches populaires à travers tout l'Orient islamique, à travers l'islam non-arabe.
Chemin de la connaissance, le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique par Ghislaine Mathieu. Aujourd'hui, iconographie avec Sharia Radel, texte lu par Marc-Henri Boisse, mixage Pierre Monteil, réalisation Michel Bossuet, demain approche
Le chemin de la connaissance, le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique. Aujourd'hui, approche mystique au pluriel avec Yves Marquet, professeur honoraire des universités.
Gabriel ajouta, « Mohammed, tu vas t'en aller d'ici et t'en retourner par la grâce de Dieu. Je te reconduirai jusqu'au seuil de pierre où tu descendis devant le temple de Jérusalem. Là, tu retrouveras Al-Burak et tu le monteras pour revenir à ta maison. » Il me prit alors par la main et me conduisit à l'échelle que j'avais gravie pour monter au ciel. Devant le temple, les prophètes m'entendaient. Je les saluai et ils m'accueillirent avec tous les honneurs, me demandant ce que j'avais fait. Je leur répondis que Dieu m'avait accordé d'immenses dons et s'était montré satisfait de moi. Ils en furent heureux, louèrent le Seigneur et le prièrent de m'accorder plus encore. J'aperçus Al-Burak qui m'attendait, m'en réjouis fort et allai vers lui pour le chevaucher. Gabriel me donna l'accolade et me serra contre lui. Mohammed, que Dieu te vienne en aide et te conduise là où tu iras. Qu'il t'accorde la grâce de retenir ce que tu as vu et de le rapporter à ton peuple. Ainsi pourra-t-il distinguer la vérité de l'erreur, se tenir sur la voie droite et se garder du mal.
L'importance du voyage nocturne dans le merveilleux islamique est à comparer à la place qu'occupe dans le merveilleux chrétien le thème de la nativité. Le livre de l'ascension, car tel est le titre que les manuscrits ont donné à ce récit, aussi bien en arabe qu'en turc, en persan et même en ouïghour, ce livre de l'ascension, donc, fait entendre de nombreuses fonctions. Il y a bien sûr la réalité de ce voyage qui est entendue par certains croyants, mais il y a d'autres approches, des interprétations ont été données à cette ascension. Par exemple, il peut s'agir du modèle pour le voyage de l'âme du mort jusqu'au trône du juge divin. D'autres approches, il voit le symbole, c'est ainsi pour les mystiques, les soufis, le symbole de la montée de l'âme, échappant au lien avec le monde sensible. Le retour du prophète d'abord vers Jérusalem pour y retrouver Al-Burak, sa monture ailée, puis à la Mecque, où il devra raconter à ses fidèles le prodige dont il a été l'objet, constitue la troisième et dernière partie du récit, tel qu'il a été fixé dans les manuscrits et tel que la tradition l'a maintenu jusqu'à nos jours. Mais il ne semble pas que ce récit ait toujours comporté trois parties. Yves Marquet.
À l'origine, le voyage était censé, au début de l'islam, le voyage était censé s'être fait de la Mecque au ciel, directement. Puis, plus tard, est apparue une autre version, celle d'un voyage nocturne à Jérusalem. Et finalement, les deux versions ont été réunies en une seule, c'est-à-dire qu'il s'est agi d'un voyage nocturne à Jérusalem suivi d'une ascension dans les cieux.
Tout ceci s'articule probablement autour d'événements historiques.
Oui, on prétend que les Omeyyades ayant transporté le siège du califat à Damas auraient voulu modifier aussi l'Isra de façon à ce que leur...
Pour conforter leur pouvoir. Le voyage nocturne et céleste est pour les mystiques et soufis le symbole de la montée de l'âme qui échappe au lien du monde sensible jusqu'aux hauteurs de la connaissance mystique. Et ceci se retrouve tout spécialement dans l'œuvre de Ibn Arabi, Yves Marquet.
Effectivement, Ibn Arabi, qui est né en Espagne musulmane et mort à Damas en 1240, a parmi ses nombreux ouvrages écrit un Kitab al-Isra, c'est-à-dire le livre du voyage nocturne, où il expose sa propre ascension spirituelle dans les sphères, n'est-ce pas ? Et selon lequel il a atteint une station proche de Dieu et atteint par conséquent une certaine connaissance de l'inconnaissable. D'autre part, il y a un peu plus tard, c'est-à-dire dans le courant du XIIIe siècle, le poète Jalal ed-Din al-Rumi, qui est le fondateur de la confrérie Maulawiya, c'est-à-dire des derviches tourneurs, qui est d'ailleurs né à Balkh, mais mort à Konya, où sa tombe est encore l'objet d'une grande ferveur. Or, pour lui, Jalal ed-Din al-Rumi a dit que la musique, c'est-à-dire le sama, et la danse sont une échelle qui permet de monter au ciel.
bien avant Rumi et Ibn al-Arabi, les frères de la pureté, Ikhwan al-Safa, préfigurateur de la confrérie, nous donnent une interprétation symbolique du Miraj, c'est-à-dire de l'ascension céleste qui est racontée dans ce voyage nocturne. Yves Marquet.
Déjà dans la première moitié du Xe siècle, les Ikhwan al-Safa considéraient le Miraj comme étant éminemment symbolique et mettaient l'accent sur l'aspect eschatologique. Le Miraj représentait naturellement la remontée de l'âme du prophète dans les cieux, mais il préfigurait en même temps la remontée de toutes les âmes, et en particulier la grande résurrection, c'est-à-dire la résurrection finale de toutes les âmes. Les frères de la pureté croient à la descente de l'âme universelle et à son incarnation dans la matière, qui est d'ailleurs émanée d'elle. Et après cette chute, c'est pas la remontée s'effectuera très péniblement au cours d'une évolution interminable. L'âme s'est donc incarnée en partie dans cette matière première, et chacune des âmes particulières devra effectuer sa remontée. Elle le fera naturellement sous l'aide des grands prophètes et de toute une hiérarchie de missionnaires, et où chaque échelon attirera l'échelon subalterne. Cette résurrection donc est extrêmement difficile. Elle a commencé dès le début avec la chute d'une partie de l'âme universelle au centre de ce qui sera plus tard la Terre, et elle devra remonter par les quatre éléments, passer par les minéraux, puis par les végétaux et enfin par les animaux, et là devra enfin s'incarner dans les hommes, et c'est à partir de ce moment que les hommes pourront bénéficier directement de l'influx divin, ou plus exactement de l'influx intellectuel. Le Miraj symbolise donc cela, autrement dit, n'est pas le même si l'ascension de Mahomet dans les sphères est considérée comme ayant eu lieu, soit sous la forme d'une véritable ascension, soit que l'influx divin soit revenu instantanément jusqu'à lui et lui donnant une vision exacte de tous les mystères de la création. Mais en même temps, le Pael symbolise donc l'ascension de chacune des âmes humaines. Et elle symbolise en même temps donc l'acquisition de connaissances que ne peut avoir le commun des mortels, et qui permet au prophète de guider la remontée de toutes les âmes humaines progressivement. Cette interminable évolution sera close par une résurrection générale des âmes, et l'ascension de Mahomet symbolise non seulement la remontée de chaque âme humaine, mais même celle de toutes les âmes de l'univers et la résurrection finale. Que Mahomet ait effectué effectivement cette vision n'a rien d'étonnant aux yeux des frères de la pureté, puisque pour eux, tout initié peut bénéficier d'une inspiration et même à partir d'un certain niveau d'une certaine révélation. Se basant sur un verset coranique qui nous parle du prophète Idris et dont il est le seul d'ailleurs à nous parler, les frères de la pureté estiment que cet Idris, qui est assimilé également à Enoch, a fait une ascension dans les sphères célestes, où il a eu une vision exacte de ces sphères célestes et de toutes les connaissances qui sont nécessaires pour atteindre ce niveau. Il croit même pas que Pythagore a inventé la musique et les instruments de musique par analogie avec la musique des corps célestes, musique incomparable qui est le modèle de toutes les musiques d'ici-bas.
Pour les frères de la pureté, les Irwan As-Safa, la signification de ce mihaj, c'est-à-dire de l'ascension céleste, est finalement très vaste. Yves Marquet.
Pour nos frères de la pureté, comme d'ailleurs pour d'autres mystiques, la signification du mi'raj est donc la plus vaste qui soit. Il y a dans leurs épîtres un passage particulièrement significatif à mes yeux. « Veut-il ne pas dormir au début de la nuit du destin pour voir l'ascension, le mi'raj, au lever de l'aube, là où se trouve Ahmed à sa place glorieuse ?» parmi les rapprochés. La nuit du destin, c'est la nuit du 27 Ramadan, au cours de laquelle, d'après le Coran lui-même, le Coran a été révélé en d'un bloc, avant d'être révélé une deuxième fois par fragments.
Et cette nuit du destin, la 25e nuit de la durée du Ramadan, c'est aussi la nuit où il est d'habituel d'entendre raconter le récit du voyage nocturne du prophète Mohammed.
Effectivement. Et il semble que pour les Ikhwan As-Safa,
les frères de la pureté,
que pour les frères de la pureté, ce soit également la nuit où aura lieu la résurrection finale. Quant à Ahmed, c'est naturellement Mahomet lui-même qui s'est élevé à nouveau au ciel pour présider à la remontée des âmes. Ils mettent donc l'accent sur l'aspect eschatologique que l'on trouve d'ailleurs aussi chez les mystiques chrétiens. Par la Jérusalem céleste représente pour les chrétiens le ciel, séjour des bienheureux et des âmes élues. Et naturellement, pour les chrétiens, cette Jérusalem céleste est purement allégorique. Ce sera le cas d'ailleurs pour un poète musulman qui a repris certains thèmes traditionnels du mi'raj, mais qui surtout va évoquer dans deux vers la Jérusalem céleste. Ces deux vers se trouvent dans un ensemble d'autres vers où il pose des questions sans donner les réponses, mais après nous avoir dit que l'aspect psychique l'emporte toujours sur les autres aspects. Il y a bien en islam une notion de Kaaba céleste, répondant, faisant face à la Kaaba terrestre, mais je n'ai jamais jusqu'à présent entendu parler de Jérusalem céleste. Pourtant, notre poète, lui aussi met l'accent sur l'aspect eschatologique, et la Jérusalem céleste, naturellement, est une pure allégorie. Ce poète, Ibn Amir al-Basri, qui a écrit vers 1300 de l'ère chrétienne, nous dit dans ces deux vers « وَهَلْ كَانَ مِعْرَاجُ النَّبِيِّ بِجِسْمِهِ إِلَى الْقُدْسِ أم بالقوة الملكية وكيف أتى لما ارتقى ومكانه كما كان في تسخينه بالحرارة.
Pour savoir si l'ascension du prophète vers la Jérusalem céleste a été corporelle ou s'il l'a effectuée grâce à la faculté angélique et comment, après être monté, il est revenu, sa place étant encore chaude comme elle l'était.
Chemin de la connaissance, le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique par Ghislaine Mathieu. Aujourd'hui, approche mystique avec Yves Marquet. Texte lu par Marc-Henri Boisse, mixage Pierre Monteil, musique, composition inédite de Dia Sukari, réalisation Michel Bossuet. Demain, retour au texte fondateur.
Le chemin de la connaissance. Ghislaine Mathieu. Le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique. Aujourd'hui, avec Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne, Paris 3, retour au texte fondateur.
Ce qu'on appelle le voyage nocturne, al-Isra en arabe, est fondé sur le premier verset de la sourate 17. Et ce premier verset dit exactement ceci: gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée, dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains de nos signes. Voilà tout le verset qui va fonder une littérature tout à fait considérable, d'une très très grande richesse, qui s'étale sur plusieurs siècles et qui reflète non seulement ce qu'on peut appeler l'imaginaire religieux, puisqu'il s'agit de religion, mais l'imaginaire, ce que nous appellerions aujourd'hui l'imaginaire littéraire, parce qu'il y a beaucoup de créativité littéraire autour de ce voyage, et la manière dont le verset s'exprime nourrit déjà l'imaginaire, parce qu'il laisse des espaces tout à fait ouverts à toutes sortes de constructions littéraires, à toutes sortes d'évocations, à toutes sortes d'animations aussi d'une contemplation spirituelle. Et c'est un exemple tout à fait exceptionnel d'amplification du texte coranique, car le texte coranique est souvent ainsi un texte de type symbolique, pour nourrir au cours des siècles à la fois la piété et la créativité littéraire.
Puisqu'il s'agit de faire retour au texte fondateur, et donc nous avons entendu le verset qui fonde toute cette littérature, il ne reste pas moins que se pose la question de l'attitude du théologien, non seulement au cours des temps, mais aussi selon les différentes confessions, les différents courants d'opinion de l'islam. Parce que, s'agissant de merveilleux, nous savons ô combien le théologien est réticent, réservé.
C'est ça,
le seul
oui.
miracle acceptable dans la révélation, c'est celui de la révélation. Et nous savons aussi combien le théologien musulman, au cours des temps, a été, on ne peut plus, rationalisant. Donc, face à ce déferlement de merveilleux, quelle a été successivement l'attitude du théologien, dans un premier temps?
Oui, c'est une question qui paraît au départ légitime, mais je crois qu'il faut essayer de réfléchir sur la question elle-même. Parce que nous avons affaire ici à une culture qui fonctionne de façon essentiellement orale et non pas écrite. Donc il faut poser la question de l'expansion du merveilleux à travers le verset que nous avons cité, non pas du point de vue de l'intervention du théologien qui lui se sert d'outils extrêmement sérieux, d'analyse, de prise de position sur l'orthodoxie et la non-orthodoxie, mais il faut d'emblée entrer dans l'imaginaire que nous appelons populaire. Et ce mot populaire ne convient pas, en l'occurrence, parce qu'il porte un jugement sur une créativité qui, dans le contexte, encore une fois, socio-culturel, qui a duré pratiquement dans toutes les sociétés musulmanes jusqu'à nos jours, la vie de l'imaginaire, à la fois religieux et littéraire, s'est déroulée en dehors de l'intervention de cette écriture savante, qui porte un jugement nécessairement dévalorisant, puisque d'emblée c'est considéré comme faisant partie du fidéisme populaire, des croyances populaires, etc.
D'un
genre tout à fait mineur, oui, exactement. Mais lorsqu'on lit les exégèses du Moyen-Âge, nous constatons que cette culture orale était si forte qu'elle a fait passer ses créations, même dans l'exégèse sérieuse.
C'est-à-dire l'exégèse livresque.
Livresque, faite par des exégètes patentés, qui ont autorité pour cela. On peut citer l'exégète que l'on cite toujours parce qu'il fait une très grande autorité, c'est Tabari. Parce que Tabari a recueilli justement le cheminement de toute cette créativité religieuse et littéraire à propos du Coran et à partir du Coran. Il l'a recueilli à travers les récits qui ont cheminé jusqu'à lui, c'est-à-dire la fin du 3e siècle de l'Égypte, 9e siècle jusqu'au début du 4e siècle, et il lui a fait une part très grande et il l'a en quelque sorte relevé au niveau de cette culture écrite qui va absorber une grande partie de ce qui faisait l'essentiel de la vision, encore une fois, je n'ai pas d'autre mot malheureusement à employer, je suis obligé de dire populaire, puisque il y a ce phénomène d'opposition entre un cheminement savant et un cheminement littéraire, en particulier en ce qui concerne toutes les expressions religieuses, et pas seulement le sujet dont nous sommes en train de parler. Et donc, lorsque nous lisons les ouvrages d'exégèse, nous constatons ce mélange. Nous sommes à un stade où les deux presque s'équilibraient, et où le jugement n'est pas aussi fort qu'il l'est devenu, surtout de nos jours. Donc, je répète que, en ce qui concerne la culture dans le monde islamique, on ne peut pas du tout faire la comparaison avec ce qui se passe en Occident, parce qu'en Occident, la culture écrite a pris une très grande force, surtout à partir du XVIe siècle, l'invention de l'imprimerie, l'extension du livre, alors que l'imprimerie, nous le savons, dans le monde musulman, n'est intervenue que très tardivement, à la fin, au début pratiquement du XIXe siècle. Et jusque-là, les conteurs populaires, ce qu'on appelle les conteurs populaires, les rossas, sont les vecteurs de toute la culture et en même temps les inventeurs de cette culture. Et jusqu'à des temps très récents, personnellement, j'ai assisté à des séances de conteurs populaires qui racontaient précisément des histoires puisées en particulier dans les récits relatifs à ce voyage nocturne.
Ce récit du voyage nocturne fait partie des thèmes qu'aborde le sermonnaire,
oui,
dans la
mosquée, absolument,
car
oui.
Vous faisiez allusion oui. au conteur populaire, mais
ça.
Je vous ramènerai dans un cadre plus institutionnalisé, celui de la religion, le sermonnaire durant la nuit du doute, ou la nuit du destin, dans ce mois de carême que nous connaissons, fait de ce récit l'un des thèmes de sa réflexion, et il lit lui-même ce récit d'ailleurs.
Oui.
Bon, alors, voilà, voici un récit qui fait partie de l'imaginaire, certes, mais qui fait aussi partie du domaine religieux et qui est intégré à la pratique religieuse institutionnelle.
Mais parce que, comme je vous le disais, les exégètes sérieux, comme Tabari ou Razi ou d'autres classiques très respectés et donc et qui représentent la tradition écrite la plus élaborée, ont déjà commenté ce verset avec toutes sortes d'épisodes et d'explications concrètes, par le voyage à Jérusalem, la montée au ciel, etc. Ils l'ont accueilli et ils lui ont donné une consécration. Une consécration en quelque sorte savante, ce qui va autoriser les imams dans les mosquées d'utiliser cette littérature puisée dans des livres très respectés comme les exégètes, donc, et pas seulement dans les récits plus popularisés, parce que effectivement les conteurs populaires peuvent broder à leur façon lorsqu'ils racontent cela sur les places de marché.
Oui, et alors dans ce cas-là, beaucoup d'éléments constitutifs du récit peuvent connaître une vie autonome.
Exactement, il y a une vie autonome, mais il y a toujours ce support qui vient de l'imaginaire populaire, pas seulement d'ailleurs, ici il faut préciser, n'est-ce pas, c'est une longue histoire, ça remonte à la Bible, hein, parce qu'il y a l'idée de l'échelle, la fameuse échelle des 16 jambes, etc., il faut remonter jusque-là. Et ce verset-là, justement, comme beaucoup de versets dans le Coran, traduit, ou plutôt fait réémerger en langue arabe, une culture constitutive de l'imaginaire religieux du Proche-Orient ancien. Vous voyez, par conséquent, il faut replacer cela dans un imaginaire beaucoup plus large. Il ne faut pas s'enfermer dans une sphère que nous qualifierions d'islamique et croire que tout ce qui s'est développé à partir de ce verset est lié exclusivement à la créativité de l'imaginaire religieux à l'intérieur de la sphère islamique.
Oui, mais moi j'en reviens quand même au théologien, au rôle du théologien. On le sait, prompt à interdire.
Alors, je m'excuse, je peux ajouter quelque chose à propos du rôle du théologien. Le théologien, en l'occurrence, ne parvient pas à limiter ce débordement de l'imaginaire, qui est un débordement, par ailleurs, très, très nourrissant, à beaucoup d'égards, poétiques, religieux, etc. Pourquoi ? Parce que les récits qui se sont développés nous montrent le prophète dans une sorte d'intimité avec Dieu. Et ceci ne peut être rejeté par aucun théologien, quelle que soit sa rigueur vis-à-vis de l'orthodoxie. Donc, ça limite, si vous voulez, le contrôle du théologien, parce que si ça n'est pas du tout la question du halal et du haram, ou de ce qui concerne le théologien juriste, donc la rigueur du théologien juriste ne se fait pas sentir.
Dans des mouvements fondamentalistes, dans une poussée fondamentaliste, le théologien n'aurait-il pas été inquiet de ce déferlement de merveilleux qui introduit le miracle? Et on sait combien le théologien est réticent, le théologien islamique est réticent à l'égard du miracle.
C'est vrai, mais ça, je le mets davantage au compte de ce mépris qui s'est développé dans toute culture écrite savante vis-à-vis de ce qui est désigné comme la culture populaire. C'est cette frontière anthropologique entre l'écrit et l'oral, frontière à la fois anthropologique et sociopolitique, donc d'essence idéologique. C'est cela qui va distinguer effectivement l'attitude du théologien qui est dans sa componction en quelque sorte d'homme savant, d'homme rigoureux, qui utilise la rationalité et donc qui n'admet pas ces débordements-là, et puis la réalité populaire de la chose, ce qui n'empêche pas d'ailleurs des théologiens de goûter l'aspect poétique et littéraire de ces récits-là, tout en exprimant cette distance par rapport à tout ce qui peut venir du populaire. C'est ainsi que, par exemple, les réformateurs algériens, avec Ben Badis, pour ne citer qu'eux, mais les réformateurs en général, ont toujours pris leur distance vis-à-vis de ce qu'ils ont appelé l'islam maraboutique et l'islam populaire. Mais cela, vous le voyez, il faut le mettre au compte de quelque chose de plus large. Il ne faut pas le mettre au compte d'une théologie stricte qui scrute le permis ou le non permis, l'orthodoxe ou le non orthodoxe, surtout dans un domaine comme celui-ci.
Donc on peut considérer le récit du voyage nocturne du prophète Mohammed comme un texte canonique.
Je n'irai pas jusque-là néanmoins. Je n'irai pas jusque-là parce que canonique, cela suppose effectivement un consensus entre ceux qui décident de la canonicité. Et ça, c'est tout le problème de l'orthodoxie. Comment se construit l'orthodoxie dans une religion qui a autorité pour tracer la frontière entre l'orthodoxie canon, le droit canon, comme nous disons pour l'Église catholique, et puis le reste, qui viendrait, le reste c'est toutes les écoles non reconnues justement, par une orthodoxie qui est constituée, encore une fois, il faut toujours se demander comment, et puis les autres orthodoxies concurrentes. En fait, là, nous touchons à un problème tout à fait essentiel et qui est de grande actualité, puisque aujourd'hui, nous avons des mouvements, effectivement, à l'intérieur des sociétés musulmanes qui prétendent détenir une expression orthodoxe et un contrôle orthodoxe de l'islam, donc fixer les frontières entre ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Mais toute orthodoxie, toutes, sans exception, est toujours le résultat d'un cheminement social, politique et culturel. Ce que nous appelons par exemple les sunnites et les chiites sont le résultat de confrontations sociales, politiques et culturelles, parce qu'on puise dans des traditions culturelles nécessairement différentes pour aller vers la construction de ce que chaque groupe va appeler son orthodoxie. Il y a des orthodoxies rivales au pluriel, et elles existent encore jusqu'à nos jours. Comment décider entre l'orthodoxie chiite représentée par les musulmans d'Iran aujourd'hui et l'orthodoxie sunnite représentée par le monde sunnite, comme nous l'appelons, les musulmans de l'Indonésie ou de Turquie, etc. Comment décider? Qui va décider? Donc, il faut absolument ouvrir la question de l'orthodoxie. Et donc, lorsque vous m'interrogez sur la théologie, bien sûr, la théologie était forte, présente, dans la période classique de la pensée islamique, c'est-à-dire du 7e siècle pratiquement jusqu'au 12e, 13e siècle, mais ensuite, il n'y a plus de théologie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de théologie. Au sens où il y avait une théologie mu'tazilite, une théologie ash'arite, une théologie chiite, du point de vue intellectuel, est une construction tout à fait sérieuse et même souvent majestueuse. Eh bien, nous ne pouvons pas citer aujourd'hui d'auteur de ce type, et par conséquent, aujourd'hui, il n'est même plus question de demander quel est l'avis du théologien sur le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire le voyage nocturne.
Chemin de la connaissance, le voyage nocturne du prophète Mohammed et le merveilleux islamique, par Ghislaine Mathieu. Aujourd'hui, retour au texte fondateur avec Mohamed Harkoun, mixage Pierre Monteil, réalisation Michel Bossuet. La semaine prochaine, en prélude au fait, les chemins de la connaissance se laisseront glisser sur les pentes du plaisir. Le plaisir, principe d'identité, offre bien des mystères non résolus. Si l'on connaît le rôle des endorphines dans le système neuro-hormonal, les variations du plaisir selon les sociétés, les philosophies qu'il a inspirées, on sait bien peu de choses, en revanche, du plaisir animal, par exemple, du rapport entre plaisir et esprit, et que dire du mal que nous avons à le partager. Le plaisir, par Ruth Sheps, à partir de lundi prochain à 10h40.